France Culture.
Le journal est présenté par Nicolas Ballu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. François Bayrou se dit confiant, la CGT constate surtout l'ampleur des désaccords. Une réunion et des tonalités différentes à l'issue du rendez-vous des partenaires sociaux avec le gouvernement ce matin pour la relance des discussions sur la réforme des retraites. Explication de Mathilde Cariou dans un instant. Le brevet ne sera finalement pas un sésame obligatoire pour entrer en seconde. La ministre de l'Éducation a indiqué ses arbitrages aux syndicats. Les précisions d'Hakim Kasmi dans ce journal. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas doit être effectif dimanche. Le cabinet de sécurité israélien donne son feu vert à l'accord. Nous ferons le point avec Thibault Lefebvre. Nous nous intéresserons également à l'aide humanitaire pour Gaza, aide qui devrait enfin arriver de façon importante. Les besoins sont immenses. Emmanuel Macron est au Liban. Le président français vient soutenir son homologue nouvellement élu, Joseph Aoun, et annonce une conférence internationale de refinancement à Paris. Addiction aux jeux d'argent, au sexe et bien d'autres, les traitements contre la maladie de Parkinson peuvent avoir de terribles effets secondaires. L'enquête de Rosane Le Saint dans ce journal. La réforme des retraites, cette fois, par le biais des partenaires sociaux. Ils étaient tous ce matin au ministère du Travail pour une première réunion destinée à relancer le chantier. Réunion en présence de François Bayrou, à l'origine de cette nouvelle concertation. Le Premier ministre a fixé à fin mai l'objectif d'un accord entre les partenaires sociaux. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir.
Les travaux ne démarreront qu'après la mission de chiffrage par la Cour des comptes sur le financement du système. Reste que cette réunion a permis de constater, sans trop de surprises et malgré l'optimisme affiché par François Bayrou, que les partenaires sociaux ont beaucoup de pain sur la planche pour arriver à s'entendre. Le fond et la méthode Bayrou sont sujets à discussion.
En tout cas, François Bayrou est sorti tout sourire de son conclave, très satisfait de la méthode de travail engagée.
Est-ce que vous connaissez un autre pays dans lequel les partenaires sociaux se voient reconnaître une responsabilité aussi importante? Je ne suis pas familier de ces négociations, mais j'ai la conviction que cet effort que nous partageons peut déboucher sur quelque chose qui sera positif et encourageant.
Un constat partagé dans une certaine mesure par les partenaires sociaux, Marie-Lise Léon pour la CFDT.
Ça commence plutôt bien. On a beaucoup parlé des enjeux de clarté sur la méthode, le calendrier et le périmètre.
Réunion de calage donc, avec tout de même un désaccord profond sur la manière de compter, puisque François Bayrou parle de 45 milliards d'euros de déficit pour les pensions, alors que le COR, le Conseil d'orientation des retraites, table sur 14 milliards d'euros à horizon 2030. Et ça, c'est dû au fait que le Premier ministre met dans le même panier les régimes par répartition, c'est-à-dire les retraites du privé et celles des fonctionnaires compensées par l'État.
Ça n'a strictement rien à voir.
François Omeril pour la CFE-CGC.
Venir vers nous en disant, bah, vous savez, l'État il intervient pour compenser des cotisations qui n'existent pas au niveau de 35 milliards d'euros. Nous, l'État, on en a marre de les payer. On va vous les faire payer à vous, salariés privés. Bah, en fait, c'est juste inacceptable.
On y verra plus clair le 19 février, conclut-il, date à laquelle la Cour des comptes doit rendre son rapport sur la question. C'est là que débuteront les vraies concertations avec un accord espéré fin mai.
Merci Mathilde. Autre grand dossier prioritaire et affiché comme tel par le Premier ministre depuis sa nomination et lors de sa déclaration de politique générale, l'éducation, en pleine discussion avec le Parti Socialiste il y a quelques jours. François Bayrou est revenu sur les 4 000 suppressions de postes dans l'éducation nationale qui avait été décidée sous le précédent gouvernement. Ce matin, la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, recevait les organisations syndicales pour présenter ses arbitrages. Hakim Kasmi, vous étiez au ministère. Bonsoir Hakim.
Bonsoir Nicolas.
Du point de vue de la scolarité, la ministre est revenue sur d'autres décisions du gouvernement Barnier, le brevet couperet notamment.
Oui, il ne sera plus obligatoire pour passer en classe de seconde. La ministre de l'Éducation donne donc la main aux enseignants, puisque ce sont eux qui décideront lors du conseil de classe si un élève peut passer ou non en classe de seconde. Une décision que saluent les syndicats, qui rappellent que contrairement au bac, qui est le premier grade universitaire, pédagogiquement, le DNB, le diplôme national du brevet des collèges, n'est pas conçu à la base pour évaluer ou non le passage d'un élève en classe de seconde. Par contre, Elisabeth Borne a bien confirmé que l'année prochaine, l'examen serait réformé, avec un niveau d'examen qui sera beaucoup plus exigeant, ce qui passera par la fin des correctifs des notes et par une nouvelle Répartition entre le contrôle continu, qui vaudra désormais 40%, contre 60% désormais pour le contrôle terminal. En revanche, la nouvelle ministre de l'Éducation a confirmé le maintien des groupes de besoin en français et en mathématiques en 6e et en 5e, mais une première évaluation sera faite en juin pour évaluer le dispositif.
Hakim, Elisabeth Borne a aussi donné des détails confirmant l'abandon de la suppression des 4000 postes dans l'éducation.
Oui, Nicolas, une décision très politique pour donner des gages à la gauche, car avec la baisse démographique, moins 92 000 élèves l'année prochaine, initialement, le ministère souhaitait supprimer, avant même la négociation avec les syndicats, 4 800 postes de professeurs. Finalement, il va même en créer 324 dans le second degré l'année prochaine, là où les besoins seront le plus importants, notamment pour les groupes de besoins en français et en mathématiques. Enfin, en maintenant ces postes, le ministère va pouvoir baisser les effectifs par classe dans le premier degré, de 21,3 à 21,1 élèves par classe, ce qui n'empêchera pas la France, Nicolas, de rester malgré tout encore au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE dans les effectifs par classe.
Merci Hakim Kasmi. À petits pas, l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas se met en place, accord destiné à mettre fin à plus de 15 mois de guerre. Il prévoit, dans une première phase de 6 semaines, la libération de 33 otages retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. En échange de plusieurs centaines de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Malgré l'opposition de l'extrême droite israélienne, l'accord est en voie d'être validé. Thibault Lefebvre, bonjour.
Oui, mais que ce fut long et compliqué. Il y a d'abord eu ces 36 heures d'âpres discussions. Et puis à la mi-journée, le vote crucial du cabinet de sécurité qui a validé l'accord. Le conseil des ministres élargi est actuellement en plein débat et il devrait confirmer la décision. Sans surprise, les deux ministres d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, ont voté contre, mais ils sont largement minoritaires. Ils menacent cependant de quitter le gouvernement et de faire tomber la coalition au pouvoir. Une crise politique est en gestation en Israël, mais ce n'est pas la question du jour. La nuit est tombée, Shabbat a commencé et on y voit ce soir beaucoup plus clair sur certaines questions. On connaît notamment les noms des 33 otages qui vont être libérés ces 6 prochaines semaines. Parmi eux, il y a les deux Français, Ohad Yahalomi et Ofer Calderon, et puis les deux derniers enfants, toujours à Gaza, les frères Bibas, dont le petit Kfir qui fêtera ses 2 ans samedi. On ne sait pas en revanche s'ils sont vivants. Et puis les autorités israéliennes ont publié tout à l'heure une liste partielle de détenus palestiniens libérables. Ils sont 95, il y a des mineurs et une députée, Khalida Jarar. Elle a été arrêtée au début de la guerre, puis maintenue en détention sans procès. L'échange entre 3 femmes otages et ses 95 prisonniers est prévu, sauf contre-temps, pour dimanche 15h.
Thibault Lefebvre, à Gaza, si la trêve est effectivement appliquée dimanche, alors l'aide humanitaire devrait à nouveau entrer de façon importante dans l'enclave. Entre 500 et 600 camions pourraient entrer chaque jour. Les besoins sont immenses. 90% de la population se trouve en insécurité alimentaire et les stocks sont déjà disposés autour de la bande de Gaza. Reportage sur Gaza qui reste inaccessible aux journalistes internationaux. Étienne Monin.
Le programme alimentaire mondial est l'un des acteurs clés dans cette remise en route de l'aide humanitaire. Ces derniers mois, il n'arrivait pas à atteindre toutes les populations et les quantités de nourriture restaient insuffisantes pour répondre aux besoins. Antoine Renard est directeur du PAM pour Gaza et la Cisjordanie.
Pour le programme alimentaire mondial, nous avons besoin de 30 000 tonnes par mois qui puissent rentrer dans Gaza et que nous puissions distribuer. Pour vous dire, au mois de décembre, nous n'avions que 14 000 tonnes qui sont arrivées. Nous étions à moins de la moitié de nos besoins.
Le programme alimentaire mondial a pourtant des stocks et des camions qui attendent en Égypte, en Israël, en Jordanie. Les réserves sont importantes, mais les contraintes imposées par l'armée israélienne et l'insécurité provoquée par le démantèlement de la police du Hamas créent un goulot d'étranglement.
Au cours du mois de octobre, novembre, décembre, nous avons perdu énormément de notre assistance parce qu'il y avait trop d'attaques par des groupes criminels.
La trêve devrait donc permettre de faire baisser les prix qui ont explosé avec les pénuries. Elle va aussi permettre aux populations déplacées de force de revenir dans leur quartier, notamment dans la zone nord de l'enclave. L'action humanitaire va devoir donc se réorganiser, dit Philippe Bonnet, directeur des urgences à Solidarité internationale.
On pense qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vont réinvestir ces zones. Donc on va réorienter nos interventions pour suivre ces mouvements de population.
En décembre, 70 camions sont rentrés dans l'enclave, alors qu'il y en avait 500 avant la guerre.
Étienne Monin, il y aura une conférence internationale à Paris pour aider à la reconstruction du Liban, qui sort d'une guerre avec Israël. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure Emmanuel Macron. Le président français est au Liban pour une rencontre avec le tout nouveau président libanais, Joseph Aoun, élu après un vide politique de 2 ans. Le président français a également appelé à accélérer le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Christian Chéneau.
Emmanuel Macron est venu évidemment à Beyrouth pour féliciter son homologue Joseph Aoun qui vient d'être élu. Le premier enjeu de cette visite, c'est aussi la consolidation du cessez-le-feu dans le sud du pays. Pour le président français, la dynamique de cet arrangement sécuritaire est positive. Les choses avancent dans le bon sens.
J'ai pu faire le point ce matin avec le commandement français et américain. Des résultats ont été obtenus, un premier retrait israélien opéré à l'ouest, mais ils doivent s'accélérer, se confirmer dans la durée. Et il faut un retrait total des forces israéliennes, un monopole total de l'armée libanaise sur les armes.
Sur le terrain, le général Guillaume Ponchin, qui participe au comité de surveillance, constate que le travail avance aussi du côté des forces armées libanaises.
Moi, ce que je vois, c'est que les forces armées libanaises ont neutralisé plus d'une centaine, je crois 120, caches d'armes, dépôts de munitions, armements trouvés depuis que nous sommes arrivés. De leur propre initiative, une soixantaine de mémoires, sans que ce soit signalé par le mécanisme, et signalé par le mécanisme, de mémoires aussi environ une soixantaine.
De son côté, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, considère qu'il ne faut pas se focaliser sur l'échéance du 26 janvier, date de fin du cessez-le-feu conclu pour 60 jours. L'important pour lui, c'est de continuer à avancer.
Christian Chéneau. À quelques jours de l'investiture de Donald Trump, la Cour suprême valide la loi qui permet d'interdire TikTok aux États-Unis. Plus exactement, la loi votée en avril dernier par le Congrès enjoint à TikTok de rompre avec sa maison mère, le géant chinois ByteDance, sous peine d'interdiction. Selon le département de la justice, TikTok constitue une menace sérieuse pour la sécurité nationale en raison de son accès aux données personnelles des Américains. Ce soir, Joe Biden dit laisser à Donald Trump le soin de décider d'appliquer ou non la loi et Donald Trump dit avoir besoin de temps pour décider. Après un long silence, l'Union européenne semble répliquer à Donald Trump et à son allié Elon Musk qui s'en sont pris ces derniers temps aux intérêts économiques et aux dirigeants européens à plusieurs reprises. Exemple parmi d'autres, le patron du réseau social X avait notamment qualifié le chancelier Olaf Scholz d'imbécile incompétent, tout en faisant l'éloge de l'extrême droite allemande. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondant permanent à Bruxelles. Fabien, l'Union européenne décide donc de contre-attaquer.
Oui, elle vient d'annoncer un élargissement de l'enquête menée depuis fin 2023 concernant X. On nous explique ici que les investigations vont s'étendre à des points techniques concernant l'algorithme du réseau social, tout ce qui guide par exemple les suggestions de contenu qu'X fait à ses utilisateurs en fonction de leurs intérêts réels ou présumés. Il s'agit de vérifier la conformité de ces paramètres configurés dans X avec le règlement DSA, Digital Service Act, qui définit les règles européennes en la matière. Pas de sanctions pour le moment, on en est encore au stade de l'enquête, mais on sent bien qu'avant même l'entrée en fonction la semaine prochaine de l'administration Trump 2, dont Elon Musk fera partie, l'Union européenne s'est finalement décidée à hausser le ton.
Et c'est visible aussi, Fabien, sur les sujets commerciaux.
Effectivement, l'Union européenne vient également d'annoncer cet après-midi un renforcement de ses relations commerciales avec le Mexique. Alors que le futur président américain a brandi à plusieurs reprises pendant sa campagne la menace d'un relèvement des droits de douane américains, son administration présente la frontière avec le Mexique comme la menace numéro un pour la sécurité américaine. Les Européens veulent quant à eux s'ouvrir d'autres débouchés commerciaux au cas où le marché américain viendrait à se fermer. L'argument vaut également pour l'accord commercial négocié avec les pays du Mercosur, désormais soumis à l'approbation des États membres, mais qui suscite, on le sait, l'hostilité de plusieurs pays, au premier rang desquels la France.
Merci Fabien Cazot. L'opposant russe Alexei Navalny est mort il y a 11 mois en détention et le régime poursuit maintenant ses proches et ses défenseurs. Ainsi, les avocats d'Alexei Navalny viennent d'être condamnés à des peines de prison ferme pour des accusations d'extrémisme, des peines qui vont de 3 ans et demi à 5 ans et demi de prison. Nous sommes hommes jugés pour avoir transmis les pensées de Navalny à d'autres personnes, a dénoncé devant la cour fin décembre l'avocat Vadim Kobzev, cité par Novaya Gazeta. En France, la journaliste Ariane Lavrieux échappe à des poursuites judiciaires dans une enquête sur le secret défense. Au cœur de cette affaire, une série d'articles publiés à partir de 2019 par le média Disclose. Ces enquêtes mettent en cause la vente d'armes par l'État français à des régimes autoritaires, mais surtout une opération militaire secrète de la France en Égypte, possiblement détournée par le régime pour tuer des civils. Une centaine d'organisations de presse ont demandé cette semaine au gouvernement de garantir la protection du secret des sources. C'est une maladie qui touche de plus en plus de monde, la maladie de Parkinson. Plus de 270 000 personnes sont concernées aujourd'hui en France. Bonsoir Rosane Le Saint.
Bonsoir.
Vous êtes de la cellule d'investigation de Radio France. Vous avez enquêté sur les graves effets secondaires des médicaments prescrits à ces malades. Des pulsions encore très méconnues et qui provoquent des situations qui peuvent sembler à peine croyables.
Et oui, et pourtant, ces effets indésirables, ils sont reconnus aujourd'hui par les scientifiques, mais aussi par la justice. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour limiter les tremblements et les raideurs, il existe un seul type de médicament qui agit sur la dopamine, le neurotransmetteur qui déclenche le plaisir. Et ces médicaments, ils peuvent effectivement provoquer des addictions vraiment honteuses selon ceux qui en souffrent.
Ce qui en fait un sujet un peu tabou, et certains de ces patients ont accepté de se confier à vous, ce sont des témoignages rares.
Effectivement, comme cette femme qui a pris l'un des médicaments concernés, le Rekip, commercialisé par le laboratoire GSK. Et elle est devenue complètement accro au jeu d'argent, au point de s'endetter de 50 000 euros. Et elle a même vidé le compte en banque de son jeune fils.
Petit à petit, j'arrive à lui rembourser un petit peu. Oui. Je fais en sorte de pouvoir lui verser 300 ou 400 euros par mois pour lui redonner son épargne. Mais bon, le mal a été fait.
Et cette femme a développé une autre addiction, au sexe, tout comme Stéphane Grange, un autre malade de Parkinson qui prenait aussi du Rekip.
J'ai eu ce que les laboratoires appellent parfois un trouble de la libido, qui en l'occurrence se manifestait par le fait de solliciter ma compagne tous les jours. En fait, je pense que je portais quelque part le côté compulsif en moi. Elle me repoussait, elle avait bien raison. J'aurais pu être en situation de viol, quoi, de viol entre époux. C'est effrayant.
Et il estime ne pas avoir été suffisamment informé par GSK sur les graves effets indésirables de son médicament. C'est pourquoi il a décidé de poursuivre le laboratoire. Et dans le cadre de la procédure judiciaire, plusieurs experts ont reconnu un lien certain entre ses pulsions et la prise du médicament. Les victimes reprochent à GSK, qui n'a pas voulu répondre à nos questions, de minimiser encore aujourd'hui les risques de son traitement, alors que le laboratoire a déjà été condamné en 2012 et que depuis, une étude scientifique solide, qui a été publiée en 2018, montre que un patient sur deux développe ce genre de trouble avec ce type de médicament.
Et parfois même, Rosane, ces addictions prennent une forme encore plus surprenante.
C'est le cas pour cet homme, haut cadre dans une entreprise, qui du jour au lendemain va être submergé par une pulsion qui le pousse, lui, aussi fou que ça puisse paraître, à torturer des chats. La presse l'a surnommé le « serial cat killer ». La justice a fini, là encore, par reconnaître que c'est le médicament qui a tout déclenché et le déclare donc irresponsable de ses actes. Il a bien voulu nous parler, à condition de faire lire ses propos.
Plus les doses de Rekip augmentaient et plus l'envie de m'en prendre à nouveau à des chats reprenait, comme une drogue. Je me suis mis à en capturer en pleine journée. Même quand j'avais des réunions programmées, je partais avec ma voiture de fonction pour en chercher. Si j'ai accepté d'apporter mon témoignage, c'est dans le but d'aider les malades qui ne savent pas dans quel bourbier ils peuvent se trouver avec ces traitements et que leur famille fasse aussi le lien quand il se passe des événements étranges, parce que les malades ne disent rien.
Et même si son casier judiciaire a été effacé, il n'arrive toujours pas à retrouver sa vie d'avant, tant cette histoire lui colle à la peau.
Merci Rosane Le Saint. Votre enquête sur les effets secondaires des médicaments contre la maladie de Parkinson, eh bien cette enquête est à retrouver sur le site radiofrance.fr. On apprend ce soir la mort de l'ancien ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Il est mort à l'âge de 65 ans. Ancien sénateur de la Drôme, il a notamment présidé le groupe socialiste au Sénat de 2014 à 2018 avant de rejoindre les rangs macronistes au sein du gouvernement d'Édouard Philippe. C'était entre 2018 et 2020 qu'il a donc été ministre de l'Agriculture. En septembre dernier, il avait été désigné par le prince Albert II de Monaco pour être le nouveau chef du gouvernement de Monaco. Un mot du temps sur la moitié nord du pays. Demain, le temps restera encore bien gris. Sur la moitié sud du pays, le ciel sera dégagé et ensoleillé, sauf en vallée de la Garonne et en haute vallée du Rhône, où la grisaille sera parfois tenace et très lente à se dissiper. Des averses en Corse, les températures maximales plafonnent encore entre 2 et 6 degrés sur les deux tiers nord du pays. Elles sont plus douces, plus au sud, avec 8 à 12 degrés jusqu'à 14 à 16 degrés près de la Grande Bleue. Ce journal est désormais terminé. À la technique, Marie-Claire Oumabadi.